des procédures maison. À l'appel de votre numéro, faites un pas en avant et lisez haute voix la phrase qu'on vous a donnée, vu ? Numéro 1, un pas en avant.
Radio Campus.
C'est quoi le texte ?
Genre une idée, une phrase choc. Genre Radio Campus, tout va bien dans le meilleur des ondes.
Radio Campus, 88.3 FM.
I arise.
Quelques artistes contemporains de jeunes talents bilingues, comme vous voyez.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Radio Campus 88.3. 17h, 18h, le mag culturel. Le mag culturel,
Radio Campus 88.3 FM.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h sur Radio Campus Orléans. Vous nous écoutez bien évidemment, vous avez l'habitude de l'entendre sur le 88.3, c'est en FM, en radio numérique terrestre et également sur orléans.radiocampus.org. Aujourd'hui, une émission internationale avec... Bah vous l'avez deviné, avec le Québec bien évidemment, puisque 2024 pour Radio Campus Orléans est placé sous le signe du Québec. Alors un petit rappel peut-être rapidement, cette année Radio Campus Orléans bénéficie du soutien de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. C'est un organisme bigouvernemental, France d'un côté, Québec de l'autre, pour faire justement du projet, pour favoriser le projet interculturel et les connexions justement entre ces deux grands territoires. À Radio Campus Orléans, vous avez notamment eu le plaisir d'entendre ces dernières semaines l'équipe de CFACT sur Ondulation et sur nos Olympiades radiophoniques. Mais bien évidemment, il n'y a pas que Radio Campus Orléans et CFACT qui font l'objet d'un soutien de la part de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. C'est bien au total 11 ou 12 projets lauréats qui ont été retenus par cet organisme pour être financés. Et aujourd'hui, on est avec deux d'entre eux. On a d'un côté Chloé Guéraud et Andréane Martin, et de l'autre Paul Vivien. Bonjour à vous toutes et tous.
Bonjour Erwan. Bonjour Erwan.
Alors, vous êtes au Québec ou en France, par exemple, Andréane, Chloé ?
On est au Québec, à Montréal.
À Montréal et dans une radio, alors c'est pas CFAC, c'est une autre radio depuis lesquelles vous faites ce duplex, c'est Choc, qui est dans quelle ville ? À Montréal, c'est ça ?
Oui, à Montréal.
C'est la...
radio de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal.
Donc une radio étudiante à Montréal, on fait un duplex aujourd'hui, voilà. Et toi Paul, tu es où actuellement ? Tu es au Québec ou tu es en France ?
Actuellement je suis en France, je suis à Rennes dans mon atelier partagé, qui est juste au nord de Rennes, dans la campagne.
Avec un super home studio j'ai l'impression.
Oh, j'ai un système son d'une qualité indescriptible.
Eh bien, ça tombe bien, étant donné qu'on est ensemble pendant une heure jusqu'à 18h pour ce magazine culturel spécial France-Québec pour présenter vos deux projets. Alors d'un côté, on a un projet de documentaire avec une traversée transatlantique, ça s'appelle En voiture Simone, que vous représentez, hein, Chloé et Andréane. Et de l'autre côté, toi, Paul, tu nous proposes un projet qui s'appelle L'harmonie de notre absence. Alors c'est peut-être que tu peux, on va commencer par toi, comme ça tu vas pouvoir me rattraper parce que je ne sais pas trop comment le présenter. C'est une forme un peu hybride entre musique, entre art visuel.
Oui, L'harmonie de notre absence, c'est un projet de performance audiovisuelle, c'est-à-dire que pendant la performance, je vais jouer avec des sortes d'instruments faits maison qui me permettent de générer de l'image et du son en direct. Et donc, ce que le public voit, c'est une sorte de cinéma en direct sur un écran géant en fond de scène. Et moi, je suis sur scène en train de fabriquer ces images et ce son grâce à des petits instruments que j'ai hackés, modifiés, créés. Et voilà, c'est un spectacle de 45 minutes que je développe, et puis j'entrerai plus en détail plus tard sur de quoi ça parle.
Chloé, Andréane, En voiture Simone, c'est une traversée donc transatlantique. Vous allez traverser l'océan et une bonne partie des territoires français et québécois pour parler justement de féminisme et de l'évolution de la place des femmes dans la société. Ça vient d'où cette idée ?
En fait, ça vient d'une discussion qu'on avait, Chloé et moi, parce que Chloé, elle voulait, je ne veux pas parler pour toi, mais elle voulait retourner vivre en France. Et nous, au Québec, on a cette idée que le féminisme serait peut-être moins avancé en France. Et là, on a eu un grand débat parce que moi, je ne suis pas certaine. Je me dis que le Québec non plus, ce n'est pas parfait encore. On n'est pas dans une égalité complète. Il y a encore des blocages. Donc... Donc, ça vient de là. On s'est dit, on va interviewer les hommes sur la route en autostop pour voir c'est quoi qui bloque.
Alors justement, selon le Forum économique mondial ou Forum de Davos, le Québec serait classé 5e au rang mondial des sociétés les plus égalitaires entre les hommes et les femmes, alors que la France serait derrière l'Espagne. C'est ce que vous dites dans votre dossier de présentation. Et à noter que en voiture Simone, alors ça a deux résonances. D'une part, Simone de Beauvoir, et de l'autre, si je dis pas de bêtises, c'est Simone des Forests. Alors c'est quoi son parcours à Simone des Forests ? C'est bien des Forests ou Forêts ?
Bonne question. On lui a pas parlé.
Ouais, c'était un peu longtemps.
1919, il faudrait enquêter sur son nom, mais c'est une expression assez populaire en français de France, mais qui est peu connue dans le français du Québec. Et il s'avère que cette Simone des Forêts, on abrège son nom parce que c'était une aristocrate, elle avait un nom à rallonge avec à peu près 4 patronymes. Et c'est la première femme à avoir passé son permis de conduire, puis elle est devenue championne de rallye automobile, et elle a gagné la Coupe des Dames notamment dans les années 30. Et ça a été la première femme à créer son école de conduite aussi. Et donc, c'est de là que vient l'expression. Moi, je ne le savais pas du tout. Je ne sais pas si vous, Paul et Erwan, vous le saviez.
Pas du tout.
Et quand on dit « en voiture Simone », c'est l'abréviation d'une expression qui est « en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne », qui est une expression créée dans le français d'Europe, en tout cas, pour lui rendre hommage.
Alors elle a bravé 3772 kilomètres. Vous vous préparez à braver combien de kilomètres, vous, de votre côté? Parce que rien qu'un océan, c'est plusieurs... C'est pas 10 000 kilomètres?
5 000.
5 000
plus environ.
5 000 en terre, j'imagine.
Facile, 10 000.
Ouais, j'avoue que je ne sais pas. Nous, on a vraiment l'habitude de faire de l'autostop, donc je n'ai pas calculé, mais c'est une grosse traversée. Là, on fait Montréal jusqu'à Nouvelle-Écosse, la traversée de l'Atlantique, puis après le Tour de France.
Ouais, comment vous...
Je sais pas.
Vas-y.
Je sais pas exactement combien de kilomètres ça fait.
Puis ça dépend des rencontres, ça dépend de qui, sur qui on tombe. Des fois, on fait des gros détours parce qu'on tombe sur certaines personnes qui nous amènent quelque part. Ça dépend des tempêtes qu'on va rencontrer sur la route aussi au niveau océanographique. C'est un gros enjeu, la traversée de l'Atlantique. Des fois, les cargos s'arrêtent en mer pendant plusieurs semaines pour attendre que la tempête passe.
Ouais, c'est ça, parce que c'est de l'autostop que vous faites, mais aussi de l'autostop maritime. Vous n'êtes pas à bord d'un petit voilier, puisqu'il y a un autre projet justement soutenu par l'OFQJ au travers de Odyssar, où c'est justement une traversée de l'Atlantique sur un voilier. Vous traversez en gros bateau cargo. Comment on fait pour monter sur un gros bateau cargo?
Ben, il faut rencontrer les capitaines des cargos.
Ouais.
c'est toute une question de négociation. Mais nous, la raison pour laquelle on fait le cargo, c'est que on s'inspire de la Beat Generation, comme Jack Kerouac et tout ça, tous ces écrivains aventuriers qui, eux, voyageaient en cargo.
Ouais. Donc ça vient de là, justement. Donc la Beat Generation, comment tu l'écris?
La génération Beat, B-E-A-T.
Peut-être que tu connais plus le mot beatnik. On dit souvent les écrivains beatniks, mais qui sont en fait des héritiers, c'est ça, de cette génération, Jack Kerouac, t'en connais d'autres, Andréane?
Absolument pas, je connais absolument pas.
C'est toute une... Leurs années de gloire, c'est quoi? C'est les années 60?
Oui, c'est ça.
C'est des jeunes qui partent à l'aventure à travers l'Amérique, à travers le monde, pour écrire en étant dans l'exaltation de l'aventure.
Complètement, et ils ont inspiré toute une génération, les beatniks, mais aussi les hippies après ça, puis toute la van life. Donc, ça vient de là.
Tu connais peut-être le roman « Sur la route » de Jack Kerouac?
Non, ça, franchement, en vrai, je ne connais absolument pas cette littérature, mais il me tarde d'avoir envie de la découvrir à cette énonciation de différents titres. C'est quoi les conseils de lecture que vous pouvez nous conseiller à moi et également à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent?
Sur la route, tous les romans de Jack Kerouac, c'est vraiment un incontournable.
C'est du roman d'aventure, de liberté. C'est vraiment la liberté à son paroxysme après la Seconde Guerre mondiale, quoi.
Après, il y a William S. Je ne sais pas comment dire son nom de famille, mais Burroughs. Celui qui a écrit The Naked Lunch. Mais c'est plus... C'est ça, ouais. Je vous conseille de tout lire ça, mais c'est vraiment plus la question de la mentalité. C'est parce qu'ils ont déconstruit vraiment beaucoup de choses en Amérique. Ils rejetaient un peu la famille, la banlieue, le mode de vie américain consumériste. Donc, c'était un peu un mouvement de révolte contre le conformisme social.
Ah, c'est pas lui ou c'est peut-être un autre. Je connais l'histoire d'un gars, d'un Américain des États-Unis qui a tout plaqué après avoir eu son diplôme et qui est allé en Australie en autarcie complète et puis il est mort dans un vieux bus parce qu'il avait mangé des baies empoisonnées. McCarthy, quelque chose comme ça, non?
Oui. Ça, c'est dans Into the Wild.
Ouais.
Oui, ben lui,
J'ai
clairement,
une référence.
Oui, c'est un peu plus tard, mais oui, il était inspiré, j'imagine, de tous ces écrivains-là.
Et du coup,
c'est votre... sa génération, ça, qui a précédé la vague des libérations sexuelles et des mentalités aussi. Libération face à la religion aussi des années 70, donc c'est eux qui ont précédé. Et juste pour préciser, je pense qu'il y en a qui connaîtront, c'est sûr, dans les auditeurs et auditrices, Jack Kerouac, on le pense souvent américain, effectivement, il vivait aux États-Unis, mais il s'avère que le nom Kerouac, c'était d'une famille québécoise, et précisément, cette famille-là venait de Saint-Hubert, de Rivière-du-Loup, puis moi, je vis à Rivière-du-Loup. Donc c'est aussi une okay. référence direct avec ça. Et évidemment, dans le nom Kerouac, qu'on entend les origines françaises, le hack à la fin.
Ça fait très breton, je trouve.
Ouais, en tout cas, ouest de la France, on ne sait pas exactement.
Ouais.
Le sud-ouest aussi, il y a beaucoup de hack.
Et une autre référence très connue aussi, c'est Thelma et Louise, qui est une de nos grandes inspirations.
Et donc, dans les listes de lecture, moi, je conseillerais tous les ouvrages de Martine Delvaux, qui est notre conseillère à la recherche aussi, qui est une grande autrice et recherche. Enfin, elle est professeure des universités à Montréal, vraiment spécialisée sur les questions de féminisme. Et elle a écrit un livre, Thelma, Louise et moi, ainsi que plein d'autres ouvrages vraiment intéressants. Et aussi tous les écrits de Francis Dupuy-Déry, qui est un chercheur spécialisé, il est franco-canadien lui aussi. Et il est spécialisé dans la recherche sur l'antiféminisme et les hommes face au féminisme. Et ça, c'est vraiment des écrits très inspirants aussi.
Et c'est d'ailleurs tout. Vas-y, vas-y.
Vas-y.
Ouais, je disais, ouais, c'est d'ailleurs tout le cœur, en fait, justement, féminisme et justement ce rapport à cette évolution et aussi le rapport des hommes vis-à-vis de ça. C'est tout le thème, finalement, de cette grande quête, de ce grand voyage que vous allez effectuer, parce qu'il n'a pas encore commencé, si je dis pas de bêtises, ce voyage, c'est de questionner, justement, les hommes, de comment, en fait, ils se positionnent, comment ils se sentent face à ça. Il y a quoi comme réponse que vous anticipez? Vous imaginez qu'il y aura quoi comme type de réponse?
Très bonne question. Tu veux y aller ou...
Non, vas-y.
Très bonne question, mais nous, déjà juste en parlant dans notre entourage, souvent ce qu'on se fait dire, c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est faite. Même, on entend beaucoup de choses comme les femmes prennent le pouvoir, etc. C'est peut-être vrai dans l'égalité de droit, mais nous, on ne croit pas que ce l'est dans l'égalité des faits. Donc, à voir qu'est-ce qu'on va recevoir comme réponse. C'est un peu ça l'idée de faire du stop, c'est que on joue avec le hasard. On ne sait pas qui va nous prendre.
Ouais.
Et... Ce qu'on espère, c'est de trouver des réponses, en tout cas. Parce qu'en fait, le projet, il démarre du constat qu'autour de nous, il y a des hommes qu'on aime, qui font partie de notre vie, et puis on ne peut pas s'en séparer, comme nos papas, nos chums, les hommes de notre vie, nos cousins, du monde avec qui, anyway, tu vas vivre toute ta vie, puis que tu aimes profondément, mais avec qui les débats sont toujours présents sur est-ce que la personne qui a porté plainte dans la vague MeToo, c'était pas une manipulation politique, ben non. Tu sais, des victimes d'agressions sexuelles, il y en a énormément. Puis si ça te remet en question, toi, papa, ou toi, mon cher cousin, ben c'est qu'il y a peut-être une évolution sociétale qui est nécessaire. Et c'était ce constat de devoir s'engueuler avec les hommes qu'on aime, qui a comme lancé un peu le projet de se dire, OK, dans nos amis aussi, des gens très progressistes qui se disent totalement égalitaires, puis finalement, l'enfant arrive. Alors oui, il change des couches, contrairement à leur père qui n'en changeait pas, mais ils en changent 1 sur 10. Donc, c'est ça, on s'attend à avoir à la fois des réponses d'anti-féminisme total, assez rétrograde. Il y a toute une vague, notamment chez les jeunes en ce moment. Dans la vingtaine, il y a toute une vague de retour de la femme à la maison et une espèce de vague de conservatisme plus certainement en réponse à la poussée du féminisme. Et il y a aussi tous ceux qui se pensent égaux, mais qui en fait ne se rendent pas compte qu'ils sont mieux payés que leurs collègues. Ou qui ne se rendent pas compte que oui, ils font le ménage, mais ils en font 20% du ménage, pas 50%. Et y a donc, je pense qu'on va avoir un peu une opposition. Et c'est l'intérêt de l'autostop, c'est une enquête anthropologique qui te permet vraiment d'aller chercher dans les petits détails et les couches et les sous-couches et les perplexités et de nos propres contradictions à nous aussi, Andréane et moi.
Alors, vous évoquiez il y a un instant qu'il y a une personne qui se charge de faire la documentation avec vous, c'est ça?
La radio? C'est nous-mêmes que nous-mêmes on...
D'accord, parce que j'avais cru entendre un nom et j'ai peut-être...
Martine Delvaux.
Oui, voilà.
Et France Dupuis Déry, ça fait partie de notre équipe de conseillers et conseillères. Parce qu'actuellement, on est en phase de recherche. Et donc, on a toute une équipe de super conseillers, conseillères dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la recherche théorique, comme les deux personnes dont on vient de parler, qui sont vraiment des figures éminentes de la recherche sur le féminisme et l'antiféminisme en Occident et dans la francophonie. Et on a aussi une équipe de conseillers, conseillères au niveau de tout ce qui est cinématographique. Ben, c'est un gros enjeu de ce film-là. L'idée, c'est comment tu retournes les codes du western puis du road movies, qui sont vraiment des genres très, très masculins. En fait, en général, le film d'aventure ou le livre d'aventure tourne autour de ce qu'on appelle le male gaze, le regard masculin. Et comment on retourne ça dans un female gaze, un regard féminin, ce qui est très difficile parce qu'il ne suffit pas d'être une femme ou d'être identifiée de s'identifier comme femme pour avoir un regard féminin. Nous sommes nous-mêmes empreintes de male gaze à chaque fois qu'on pense au road movies ou le western. Donc, il y a toute une recherche en amont du tournage qui est faite tant du point de vue théorique que du point de vue esthétique visuelle, esthétique sonore, pour vraiment essayer de faire un Thelma et Louise, mais pas réalisé par un homme cette fois-ci. Pas Ridley Scott cette fois-ci, c'est Andréane et Chloé, puis avec notre propre sexisme internalisé, nos propres paradoxes, nos propres contradictions, puis nos propres limites. On se met vulnérable pour toucher à la vulnérabilité des gens.
Parce que finalement, il y aura aussi un voyage introspectif.
Complètement. C'est sûr que le voyage, c'est toujours introspectif d'une certaine façon. Mais oui, nous, on travaille sur nos propres blocages aussi. Donc, on partage cette position de vulnérabilité quand on fait du pouce. Souvent, il y a quand même une position de pouvoir quand tu fais du documentaire et que tu interviews quelqu'un. Mais là, nous, on amoindrit cet écart qui peut exister parce qu'on fait du stop, donc on se met en position de vulnérabilité.
Ouais.
C'est sûr que c'est introspectif et c'est aussi pour ça qu'on le fait ensemble, c'est qu'Andréane et moi, on est des anciennes colocs. Et donc, il y a un rapport très intime entre nous. C'est sûr que de faire un si grand périple, t'es plus la même personne à la sortie. Donc, on va certainement filmer nos propres pérégrinations émotionnelles, mentales, même si on ne les mettra pas forcément en montage. On verra ça ensuite en post-production, mais il va y avoir un... Tu sais, des fois, en autostop, tu fais des bonnes rencontres, des fois, tu en fais des mauvaises. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Des fois, on est poussé dans nos derniers retranchements, on ne sait pas où dormir, on n'est pas en sécurité. Donc, il y a aussi l'aspect mal de mer, mine de rien, 5000 km d'océan.
Oui, je pense que c'est quelque chose.
Donc, le fait de se pousser dans nos limites, de tenter en tout cas de pousser le médium dans ses limites aussi, en retournant les codes établis, il y a tout un aspect introspectif aussi, tant dans notre démarche artistique que personnelle.
Il va commencer quand à peu près le voyage? Il durera combien de temps aussi?
C'est un voyage de plusieurs mois, 2 mois de tournage qu'on s'est dit.
Ouais.
Après, il y a beaucoup de modalités qui restent
à définir. Ouais.
Donc,
qu'on pensait voyager cet automne, mais il s'avère que la Niña, qui est un phénomène climatique inverse de El Niño, apparemment, d'après ce qu'on nous a expliqué, parce qu'on passe notre temps sur les ports à parler à des armateurs et des marins ou des femmes marins, et la Niña va frapper très fort cet automne sur l'Atlantique, donc on nous a vivement déconseillé de traverser l'Atlantique. Cet automne, il va y avoir des énormes tempêtes, voire des ouragans un peu plus au sud. Et certains cargos partent de la Nouvelle-Écosse au Canada, font escale à New York, font escale à Miami, avant de traverser vers Rotterdam, l'Angleterre, etc. Ou les gros ports français comme le Havre. Et donc, vu qu'on ne sait pas exactement quel sera l'itinéraire du cargo, C'était prendre beaucoup trop de risques et les armateurs n'étaient pas du tout ouverts à prendre deux touristes avec le mal de mer au milieu des ouragans. Puis aussi, des fois, ça suppose que tu, au lieu de passer 14 jours en mer, tu en passes le double parce qu'ils vont attendre que la tempête passe. Ils vont rester en mer en attendant que la tempête passe. Donc, c'était un gros hasard pour eux à gérer. Donc, on attend que les conditions climatiques soient meilleures et que des armateurs qui soient ouverts à nous prendre.
C'est la première fois que vous allez faire un trajet aussi long en mer?
Oui, c'est la première fois qu'on va traverser l'Atlantique. Moi, dans ma vie, j'ai fait 10 jours de voilier sur le Saint-Laurent au Québec, mais c'est tout.
Donc, ça va être
Ouais,
ça va être une grande première. Je me tourne vers toi, Paul. Est-ce que tu as déjà été en mer aussi longtemps?
Ah non, pas du tout. Je sais même pas si j'ai déjà fait une nuit en mer. J'ai dû faire la France vers la Corse maximum et je sais même plus combien d'heures c'est. Donc j'imagine même pas une telle durée en mer, avoir plus rien à voir, à perdre de vue pendant tout ce temps-là. Donc je vous souhaite de bien le vivre. Ça va être une aventure, ça c'est sûr.
Merci
Paul.
Alors Chloé et Andréane avec le projet en voiture Simone, je suis allé un tout petit peu trop vite. Paul, toi de ton côté, je le rappelle, ton projet c'est l'harmonie de notre absence. Alors c'est quoi ton rapport avec les territoires français et québécois?
Dans ce projet, l'harmonie de notre absence, ce que j'essaye de raconter, qui est explicité dans le titre, c'est en quoi il y a une beauté dans des paysages dont l'humanité ne serait plus présente. Donc par exemple un espace urbain, une ville, une grande usine à la campagne, si l'humanité disparaît, qu'est-ce qui va devenir beau dans cet endroit-là? Et pour moi, ce qui va être beau, il y a pas mal de choses, et il y a notamment toute la biodiversité qui va reprendre possession de ces espaces-là, donc ça se matérialise par des plantes qui repoussent, des animaux qui recolonisent ces espaces-là, et en particulier, certaines espèces vont reprendre possession de manière assez différente que si l'humain n'avait pas été là du tout. Donc, certaines villes, par exemple, vont être des refuges pour des oiseaux, puisqu'ils vont pouvoir se percher très haut à des endroits où les prédateurs ne peuvent pas les attaquer. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de conséquences possibles d'une humanité qui disparaît de certains territoires. Et là où ça m'intéresse de travailler au Québec, c'est que c'est un pays, une région où il va y avoir des endroits relativement récemment urbanisés. On voit donc les mêmes systèmes qu'aux États-Unis de quadrillage des routes, etc., qu'on n'a pas, nous, en France, par exemple. Donc, l'urbanisme est très différent de l'urbanisme français, voire européen, et c'est assez récent. Et puis, il y a beaucoup plus de gratte-ciel, de grands buildings à Montréal, par exemple. On n'en a pas autant, même à Paris. On a 10 buildings à tout casser, à la Défense. Donc, ça m'intéresse d'aller traiter de ces endroits-là. Et ce projet, il a pour vocation de représenter environ une douzaine de territoires différents. Et pour avoir de la diversité dans mon spectacle, donc qui est une sorte de promenade à travers tous ces paysages-là, ben, j'essaye de m'intéresser à des territoires qui ont pas mal de différences et qui ont des choses intéressantes à montrer. Et donc au Québec, je suis encore en réflexion sur quel territoire je vais travailler précisément. Je m'intéresse bien sûr à Montréal, puisque c'est très... C'est un endroit où j'ai pu aller déjà deux fois, où je reviens cet automne dans le cadre du projet. Donc, je suis encore en train de chercher des collaborations avec des scientifiques qui connaîtraient bien le territoire et qui pourraient m'aider à penser un endroit qui serait très intéressant à montrer sous forme de maquette post-présence humaine pour y montrer l'harmonie de notre absence. Et en France, j'ai déjà pu commencer à travailler avec la baie du Mont-Saint-Michel, avec un quartier assez connu à Toulouse, qui est un peu carte postale, avec la vallée de Grenoble aussi, qui est assez significative, puisque c'était autrefois un lac glaciaire, et c'est désormais une ville qui est complètement plate et qui est à l'endroit où il y avait autrefois un lac. Donc c'est intéressant à étudier comment tout ça a évolué. Puis c'est aussi un endroit qui est une sorte de cuvette à pollution lors d'épisodes de forte chaleur. Donc toutes les conséquences de l'absence de l'humain peuvent être chouettes à explorer. Et j'ai aussi travaillé lors d'une résidence en mai dernier sur les laboratoires et les centres de recherche du CERN en Suisse, donc à la frontière entre la France et la Suisse, assez proche de Genève. Et le CERN, si on ne connaît pas, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Et c'est un des plus gros centres de recherche au monde. Donc, ils ont des équipements qui sont complètement dingues. Il y a des accélérateurs de particules qui font jusqu'à... Ben voilà, le plus gros, j'étais complètement la tête dedans, mais maintenant, j'ai un peu oublié. Mais je crois que le plus gros fait 30 km de périphérie sous la Terre. Donc, une sorte de gros cerceau de à 3 mètres de diamètre qui est sous la Terre et qui fait circuler des particules à la vitesse de la lumière. Donc c'est évidemment des infrastructures humaines qui sont, je trouve, très intéressantes à étudier en termes de conséquences sur la biodiversité si on venait à disparaître et donc que la maintenance de ces équipements venait à s'arrêter. Par exemple, aujourd'hui, une centrale nucléaire, c'est extrêmement sécurisé, mais si les humains disparaissent ou tombent dans les pommes pendant, j'en sais rien, une journée, deux journées, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a surchauffe ? Est-ce qu'il y a des systèmes automatisés qui tiennent le coup pendant longtemps ? Enfin voilà, à travers mon projet, je pose un peu toutes ces questions-là. Le but n'est pas non plus forcément de dénoncer beaucoup de choses, de faire la morale, de mettre en garde, etc. Je m'attarde vraiment à montrer qu'est-ce qui est beau à cet endroit si on n'est plus là. Mais pour montrer ça, je dois passer par des recherches en collaboration avec des scientifiques, des ingénieurs, etc., pour leur demander, voilà, assez bêtement, bon, bah là, si j'appuie sur ce bouton, ça fait quoi ? Non, je rigole, c'est plutôt s'il n'y a plus personne pour sécuriser cet équipement, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Au CERN, c'était très intéressant, puisqu'ils ont, voilà, ils ont ces équipements, ils font des recherches qui peuvent parfois avoir des émissions radioactives, qui sont bien sûr contenues, contrôlées, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si on perd le contrôle de ça ? Est-ce qu'il y a des fuites ? Et là où c'était intéressant, c'est que c'est en partie le CERN qui m'a invité pour venir faire une résidence pour travailler sur leur territoire, mais je crois qu'ils n'avaient pas tout à fait compris ou fait attention de quoi parlait mon projet. Et quand j'ai commencé à leur poser des questions sur la radioactivité, les équipements, la biodiversité, ils étaient là. Ah mais non, mais nous, il n'y a absolument aucun problème chez nous, tout va très bien, on ne veut pas plus que ça répondre à tes questions. C'était vraiment un déni de discussion. C'était non, mais fais ta maquette sur le CERN, c'est bien, mais on n'a pas le temps de parler de projets comme ça avec les artistes en ce moment, on est débordé. Bon, d'accord, là, je vais me débrouiller tout seul, mais du coup, ce sera votre problème que je vais montrer. Donc, j'ai une maquette que vous pourrez découvrir dans le spectacle qui parle du CERN et de qu'est-ce qui peut se passer là-bas si jamais plus personne n'est présent pour surveiller ces infrastructures extrêmement complexes. Voilà.
Et ouais, ça fait l'objet du coup d'un j'ai une moto qui passe derrière, justement on est un petit peu dans le thème entre le transport sur des territoires et justement la pollution de nos environnements. Oui, ça fait l'objet en effet de donc d'une installation, donc à la fois sonore et à la fois visuelle. Donc ces maquettes que tu filmes et que tu projettes derrière toi pendant que tu mixes, que tu fais justement cette production là. On va écouter un extrait dans quelques instants, mais moi ça me faisait penser ce que tu me disais justement à qu'est-ce qui se passe en fait si l'humain disparaît du jour au lendemain. Ça me fait penser à un documentaire qui était sorti il y a quelques années, qui justement un peu une sorte de docu-fiction qui imaginait que d'un coup, d'un claquement de doigts, tous les humains disparaissent de la Terre. Qu'est-ce qui se passe au bout de 1 heure, 3 heures, une journée, 4 jours, une semaine? Et en fait on voit que assez rapidement il y a en effet des surchauffes de centrales nucléaires qui se mettent à exploser les unes après les autres. Vraiment sur les premières heures, les premiers jours, les premières années, il y a pas mal de choses qui se passent, et puis après tout doucement en fait la nature elle reprend ses droits, et au bout de quelques dizaines ou centaines d'années t'as les monuments en fait, les grands gratte-ciels, tout ça, ça finit par disparaître. Et qu'est-ce qu'on laisse en fait en tant qu'humain? Et je crois qu'une des choses qui reste le plus longtemps, c'est les éviers en inox.
Oui, voilà. Effectivement, l'inox étant non oxydable, c'est un métal qui va assez peu se dégrader. Et moi, dans les recherches que j'ai menées, après, c'est infini comme recherche. Donc ouais. Oui, j'avais pas cette information-là sur les éviers en inox, mais je la note. Et moi, de mon côté, le truc le plus notable que j'ai retenu dans mes discussions avec les scientifiques, c'était les pylônes électriques de haute tension. Et oui, parce que c'est des énormes structures qui ne prennent pas le vent, qui ne prennent pas les intempéries, donc pas de rouille, pas de pluie, pas d'oxydation.
Bah, pourtant, ils sont dehors, je comprends pas.
Ils sont dehors, mais en fait, la pluie ruisselle extrêmement facilement sur ces structures et en fait, ça sèche tout de suite. Donc, ça n'a pas le temps de s'oxyder, parce que ce qui fait qu'un métal va s'oxyder, même l'inox finit par s'oxyder au bout d'un moment, si l'eau reste présente dessus ou si c'est immergé. Mais des pylônes électriques, en fait, la pluie, quand il a fini de pleuvoir, 30 minutes après, le pylône est sec. Donc, l'eau n'a pas le temps de venir ronger ce métal-là qui, en plus, est traité, je ne sais plus comment, mais voilà, c'est... C'est pas de l'inox, bien sûr, ça doit être de l'acier galvanisé, je pense. Mais ça ne prend pas le vent, donc ça ne se fait pas pousser, ça ne se fait pas éroder par du sable, etc. Donc la seule chose qui peut amener le pylône à tomber éventuellement, c'est l'affaissement des sols en dessous dû à, j'en sais rien, trop de pluie, trop de boue, pas assez de plantes pour maintenir les sols. Et du coup, le pylône va tomber sur ses fondations. Mais théoriquement, même si ça arrive, il reste droit et bien structuré puisque c'est des structures triangulées extrêmement solide, faite pour tenir des énormes tensions de câbles électriques, et je ne parle pas là de la tension électrique, mais de la tension mécanique.
Donc en gros, tout ce qui resterait de l'humanité au bout de quelques milliers, voire millions d'années, enfin peut-être pas millions, je pense que ça aura le temps de dégager, mais c'est dans un premier temps des pylônes électriques, des éviers en inox et du plastique.
Un super souvenir pour les générations futures ou les autres espèces extraterrestres qui viendraient visiter notre planète. Oui, il y a de jolis monuments comme ça qui resteraient.
Par contre, tous nos bouquins, tous nos disques durs externes avec nos photos de famille, ça, c'est niette, quoi.
Oui, ou alors il faut les enterrer dans des caissons vraiment conçus pour résister à tout ça. Et c'est d'ailleurs un des petits passages de fin de mon spectacle où je prépare une sorte de souvenir comme ça pour le futur qui sera plus tard enterré dans le sol et protégé. Voilà, comme l'ont déjà fait d'autres projets, comme la sonde Pionnier qui part dans l'espace, etc. Mais c'est un truc qui me fascine pas mal et que je veux aussi montrer... à la fin du spectacle.
Ah bah justement, je propose qu'on écoute un extrait de ton spectacle, en tout cas du son qu'on peut entendre, évidemment, puisque l'image, bah, il faudra venir voir, puisqu'on est actuellement à la radio. Donc je vous laisse, chers auditeurs et auditrices, quelques instants avec un extrait donc, de ton travail, l'harmonie de notre absence, Paul Vivien, un travail qui est en construction. Que se passerait-il sur Terre si l'humain disparaissait et qu'il ne restait que nos paysages, nos éviers en inox et ces grands pylônes en acier galvanisé? C'est la question que tu poses, donc Paul Vivien, au travers de ce travail, l'harmonie de notre absence. Alors, il y a des sons, c'est très tendu, c'est pas forcément rythmé, on a vraiment des ambiances sonores. Et en termes d'image, on a de la saturation, on a des plans resserrés, on a des glitches, on a du noir et blanc de temps en temps. On voit que ça glitch un petit peu entre tout ça. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cet esthétisme? Et puis pendant ce temps-là, pendant que tu réponds, peut-être Chloé et Andréane, qui êtes toujours avec nous, je vous donne le choix du titre qu'on va écouter ensemble, qu'on va faire écouter à nos auditeurs et auditrices pour couper un petit peu cette émission avec de la musique. Un titre que vous aimez bien, un titre que vous mettrez lors de votre voyage. Je vous laisse réfléchir et me l'écrire dans le chat de la visio. Comme ça, je pourrais le mettre sur l'ordinateur et le diffuser dans 5 minutes. Vas-y, Paul.
Oui, bah, du coup, j'explique brièvement un petit peu comment sont fabriquées les images et les sons de ce spectacle-là. Ce qu'on a entendu à l'instant, c'est le son qui provient d'un vinyle. En fait, la musique du spectacle est générée par des vinyles 33 tours de récupération. Et je vais commencer même à en graver maison avec une création sonore. Ces vinyles sont en fait lus au ralenti à une vitesse d'à peu près 5 ou 10% la vitesse normale de lecture d'un vinyle. Et ce son est ensuite remixé par des pédales à effet de guitare qui créent du coup une sorte d'effet réverb, ambiante, donc tout ce qu'on a entendu qui est comme quelque chose de très atmosphérique. Et ce travail de bande-son que j'essaye de faire, c'est à la fois une sorte de recyclage de bande-son existante, donc de vinyle que je vais chiner à droite à gauche. Et ce que j'aime bien montrer avec ça, c'est une sorte de mélancolie et d'espoir, donc montrer même comme une décroissance dans la musique, avoir quelque chose qui est très lent, qui est très posé, où on contemple ces paysages-là qui bougent en mouvement assez lent, puisqu'en fait, les paysages de maquettes que je réalise, des différents territoires post-humanité qui sont montrés, ils sont construits sous la forme de maquettes sur les vinyles 33 tours. En fait, le vinyle en lui-même est le support de la maquette, et ça me donne une sorte d'objet audiovisuel. La face A du dessus contient la maquette du paysage, et la face B du dessous contient la bande-son gravée dans le vinyle de base. Et ce qu'on entend est lu sous le vinyle. Et j'ai fait une petite modification, un petit hacking de platine vinyle pour pouvoir retourner la tête de lecture et le lire par en dessous. Et l'image du dessus, c'est une caméra qui est positionnée au-dessus de la maquette la caméra bouge, mais le vinyle bouge également, vu qu'il est en rotation pour
Une
entendre le
caméra
son.
que tu as montée, je crois, sur un support d'imprimante 3D.
Alors, ce sont les mêmes mécanismes moteurs et techniques de mouvement que pour une imprimante 3D, mais je l'ai reconstruit de zéro, je l'ai designé et conçu, donc c'est assez similaire à une imprimante 3D, je m'en suis inspiré, mais j'avais besoin d'un système plus démontable, plus léger qu'une imprimante 3D, bah, pour pouvoir voyager avec ce projet. Et donc, oui, c'est un système assez similaire. Donc, c'est robotisé sur trois axes, donc avant-arrière, haut-bas, gauche-droite. La caméra est positionnée à la place de ce qui serait normalement la tête d'impression 3D qui pose le plastique. Et la caméra elle-même a d'autres axes également de mouvement. Elle va s'incliner de haut en bas. Je vais pouvoir piloter par moteur le zoom, la mise au point et le diaphragme de la caméra pour avoir vraiment beaucoup de choix dans les angles et les cadrages que je peux faire sur ces maquettes de paysages qui sont en train de bouger. Et c'est comme ça que je fais un peu mon cinéma en direct sur scène avec, bien sûr, bah, deux lecteurs, deux caméras, deux vinyles qui tournent en simultané. Et c'est ainsi, une sorte de DJ set vinyle entre deux vinyles, et je fais des transitions. Mais c'est également une sorte de VJ set entre deux paysages et deux caméras. Et là aussi, je vais faire des transitions, d'images. Et VJ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme qui vient de vidéo de jockey. C'est une pratique qui consiste à mixer de la vidéo en live, comme le ferait un disque de jockey avec la musique. C'est une pratique que j'exerce lors d'événements de musique électronique et qui me tient beaucoup à cœur. Et là, c'était l'occasion dans ce projet de l'explorer d'une autre manière, sans ordinateur, sans fichier vidéo,
Ouais.
mais vraiment juste avec des choses générées en direct, plastiques et tangibles.
On a eu du VJing sur Ondulation avec Plot, qui était un des artistes qu'on a programmé donc sur Ondulation, le festival de la création radiophonique et numérique de Radio Campus, au travers, encore une fois, du projet Audissart de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui nous rassemble tous les quatre aujourd'hui sur cette émission du MAC culturel sur Radio Campus Orléans. Je le rappelle, vous nous écoutez sur orléans.radiocampus.org, en FM sur le 88.3 et en radio numérique terrestre. Peut-être rapidement, Paul, et après, on va passer au titre que Chloé et Andréane ont choisi pour nous. Comment ça t'est venu, en fait? Ça vient d'où, cette fascination pour le monde de demain sans les humains et la naissance de ce projet, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es dit, je vais faire ça? Elle
Je
vient d'où
pense
cette
que c'est
sensibilité?
une... Cette sensibilité, c'est une réaction, je pense, au fait d'avoir déménagé en ville, par exemple, alors qu'avant j'habitais à la campagne pendant mes 18 premières années de vie, et en étant allé à Paris pour mes études d'art, voilà, j'ai vécu la ville à fond, mais sans forcément me rendre compte d'éléments oppressants que je pouvais ressentir de la ville et de l'urbain extrême qu'il y avait dans mon cas à Paris. Et dès que je retrouvais des endroits de nature ou dès que je voyais des sortes de paysages post-apocalyptiques dans des films, dans des séries, j'avais une sorte de nostalgie de ah, mais ce serait génial, une ville, mais avec beaucoup plus de végétation. Et ça, oui, il y a plein de villes qui existent comme ça. Et quand j'ai pu un peu voyager après mes études, je suis allé à Berlin, je suis allé à Montréal, je suis allé dans d'autres endroits comme ça où c'est beaucoup plus végétalisé qu'à Paris et je me suis senti vraiment mieux. Ça, donc, c'est une première forme de réaction en parallèle avec une autre forme qui a été que dans ma consommation de culture post-apocalyptique, que ce soit jeux vidéo, BD, livres, etc. Il y a quelque chose qui me titillait à chaque fois, c'est que on montre la fin du monde comme quelque chose qui est plutôt la fin. Enfin, on parle voilà de fin du monde et d'apocalypse, mais pour moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai toujours trouvé que c'était plutôt une fin de l'humanité et que finalement le monde, la nature, la biodiversité, c'était plutôt un cadeau qu'on pouvait lui faire si on disparaissait, comme si on était un virus, comme le dit Smith dans l'épisode 1 de Matrix d'ailleurs, un virus qui ronge la planète et qui ferait mieux de changer d'endroit et de laisser cette planète tranquille. Et j'ai eu envie de montrer cette vision qui est présente, mais moins présente dans la culture post-apo, de quelque chose de très positif et de très beau du fait qu'on ne soit plus là. Donc vraiment aller chercher scientifiquement vraiment des vrais faits de toutes ces choses-là qui sont possibles. Et j'aime beaucoup les sciences aussi depuis tout petit, donc c'était l'occasion d'intégrer ça à un projet qui mêle donc science, art et technologie pour raconter cette vision un peu particulière que je retrouve à mon goût pas assez dans la culture normalement, et pour moi c'est une vision presque d'espoir, mais ça questionne le point de vue anthropocentré qu'on peut avoir en tant qu'humain. C'est une vision d'espoir, mais un peu neutre, de bah voilà, ce serait, je trouve, objectivement mieux comme ça, mais voilà, à voir, à suivre.
Paul Vivien, l'harmonie de notre absence dans le magazine culturel de Radio Campus Orléans. Il est 17h40 dans une trentaine de secondes. Je me retourne vers vous, Chloé et Andréane. Donc vous avez choisi un titre de votre playlist que vous allez diffuser, vous allez écouter lorsque vous ferez cette grande traversée de l'Atlantique. C'est Allosexuel de Claude Lanthrop. Alors je ne connais pas du tout cet artiste. C'est quoi ses pronoms? Il, elle, yel ou pas de pronoms? Et qu'est-ce que ça veut dire allosexuel? J'ai beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, m'en dire un peu plus sur ce choix et ce que ça raconte?
Ben, en fait, Claude Lanthrop, c'est un artiste queer de Montréal qu'on aime beaucoup. Allosexuel, je pense que ça réfère à toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc, ce serait comme un synonyme de queer, si je comprends bien.
Et nous, on l'aime bien parce que c'est le sujet de sortir de l'hétéronormativité. C'est ça.
Alors, on vous a perdu un tout petit instant. Est-ce que tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît?
Moi? Ok. Ouais. Alors, en fait, c'est on a choisi ce titre-là parce que c'est pour sortir de l'hétéronormativité. Puis, c'est un peu dans l'esprit de notre projet.
Ouais.
Et Claude Lanthrop, dans sa pratique musicale, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est comme à la frontière de plusieurs genres et elle est très, très libre dans ses mix, dans ses utilisations parfois humoristique. J'aime beaucoup son style et c'est pour nous, elle nous inspire dans le projet, le fait de prendre des styles très très connus et très rodés comme le road movie et le western, puis d'aller aux frontières de ces genres-là avec une grande liberté, une grande audace et envoyer chier les conventions. Et Claude Lanthrop, elle fait vraiment ça super bien. Mais j'avoue, il faut qu'on te dise un truc, Erwan, qu'on a été un peu déstabilisé par la question.
Mais oui. Parce que
souvent, en cinéma documentaire, justement, on essaye de surtout pas avoir des musiques avec des droits d'auteur dessus, parce que sinon, on va devoir les payer. Puis des fois, les maisons de disques veulent pas nous donner les droits. Donc, on est justement dans une espèce de phobie dans le cinéma doc, à surtout ne pas capter telle émission, telle chanson. C'est souvent... une peur en cinéma documentaire. Tu filmes quelqu'un chez lui, chez elle, la radio passe ou la télé passe et là, boum, finalement, tu ne peux pas utiliser la scène parce que tu n'as pas
le droit.
Donc, on a un peu cette culture de la phobie des œuvres qui ne nous appartiennent pas parce que ça va bloquer le montage. Mais en fait, on va se faire une playlist pour, même si on n'a pas les droits, juste pour s'inspirer de toutes ces aventuriers et surtout ces aventurières.
Eh oui.
J'ai une petite technique très brève pour vous, pour les droits d'auteur, c'est de ralentir à 5 ou 10% la vitesse de la musique et ensuite de mettre une espèce de pédale à effet. Et en fait, même l'auteur, l'autrice ne peut plus deviner que c'est sa chanson. Et moi, ça, c'est ma technique pour mon spectacle.
Voilà. Mais je crois même qu'on peut même entrer dans le droit de citation. Et là, on peut faire valoir des droits, en fait, quand on n'utilise pas l'œuvre, mais simplement on la cite ou on la déforme ou il y a quelque chose comme ça. Enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices. Rassurez-vous, Chloé, Andréane et Paul, Radio Campus Orléans et en règle avec la SACEM et on peut diffuser ce titre à l'antenne. Claude Lanthrop dans le mag culturel, c'est Allosexuel. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h.
sexuel. Nous sommes les lettres de l'alphabet, les parias de la nature. Nous sommes l'anecdote, le méfait, le désir assumé de l'impur. Nous sommes la déviance, l'imparfait, devant l'universelle figure. Nous sommes la nouvelle épistémée, amoureux plutôt que créature.
Claude Lanthrope avec son titre Allosexuel, c'est sur Radio Campus Orléans dans le mag culturel. On est ensemble jusqu'à 18h avec Chloé Guéraud, Andréane Martin du projet En Voiture, Simone et Paul Vivien du projet L'Harmonie de notre absence. Qui nous réunit, vous trois et nous, Radio Campus Orléans, c'est qu'on bénéficie du soutien de l'Office franco-québécois pour la jeunesse via l'appel à projet Odissar pour faire des projets interculturels entre le Québec et la France. Et sur ces 15 dernières minutes, discutons, parce que j'imagine que vous avez peut-être des questions à vous poser les uns les autres, vous avez peut-être aussi des curiosités par rapport à Radio Campus et de notre projet. Voilà, donc est-ce que quelqu'un veut commencer par prendre la parole? Quelqu'un ou quelqu'une?
Déjà, j'avais une petite suggestion, mais peut-être que vous connaissez ce spectacle. En tout cas, quand vous avez parlé de votre projet tout à l'heure, Andréane et Chloé, ça m'a fait penser à Backlash de Penelope Skinner. C'est une pièce de théâtre sur les masculinistes et leur rhétorique aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez cette pièce?
Je ne connais pas, mais j'ai très hâte d'aller regarder ça de plus près.
Oui, ben, je ne sais pas s'il y a... En tout cas, moi, je l'ai vu en vrai à Rennes dans une salle de spectacle, dans le cadre d'un festival, il y a quelques mois, et ça parlait vraiment de ça. Du coup, ça démonte la rhétorique masculiniste, donc ça permet d'avoir un deuxième degré de lecture de cette rhétorique et d'argumentaire, et c'est critiqué à travers la pièce. Donc c'est l'histoire de Danny, une sorte de père de famille de 50-60 ans assez lambda qui trouve refuge contre le féminisme dans les propos d'un influenceur anti-féministe sur YouTube, et il va à sa convention, etc. Bref, je vous spoile pas la suite de l'histoire, mais c'est très intéressant d'un point de vue mise en scène, puisque c'est un seul en scène d'un mec de 60 ans, mais qui parle de tout ça et de, enfin voilà, il y a vraiment, c'est au deuxième, troisième degré, mais c'est assez intéressant à aller voir. Donc je répète le nom, c'est la pièce de théâtre Backlash de Penelope Skinner.
Et c'est très intéressant, ça montre en tout cas qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce sujet-là, qu'il y a un intérêt, j'imagine. Mais oui, avec les influenceurs aussi, on a commencé à regarder ça de plus près, c'est quand même assez incroyable tout ce qu'on trouve sur Internet, et de toutes ces figures populaires, masculinistes, surtout chez les jeunes, c'est un monde, un univers à découvrir en soi.
C'est ça, parce que les études montrent que les jeunes femmes dans la vingtaine sont plus féministes que jamais. C'est aussi des jeunes femmes qui sont devenues ados à l'époque de MeToo, donc on voit la première vague en tout cas, donc on voit un lien. Et les jeunes hommes, comme on disait tantôt, apparemment seraient de plus en plus conservateurs, donc il y a vraiment une droitisation des jeunes hommes et... Bon, je ne sais même pas si je ramènerais ça à droite ou gauche. Mais bon, bref. Un article parlait de ça, mais je ne suis pas sûre d'être d'accord.
Moi, ça fait référence à... Je sais que nous, l'année dernière, à la radio, en fait, si tu veux, autour du 8 mars, autour de la journée des droits des femmes et non pas la journée de la femme, que nous, en fait, à Radio Campus, on aime bien étendre à la journée. Enfin, on fait toute une semaine de programmation où on va au-delà des droits des femmes et on parle aussi d'égalité entre les sexes et les genres. Ça s'appelle Aphrodite. Et je sais que l'année dernière, on avait justement reçu un organisme en région Centre-Val-de-Loire qui s'appelle le Césaire. Je crois que c'est le Césaire et qui fait des enquêtes autour de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, ils avaient des chiffres et parlaient justement de ça, de ce recul en tout cas de ça chez les plus jeunes, en fait, en tout cas ce recul de cette volonté d'égalité entre les hommes et les femmes, cette recrudescence des violences également, des violences que ce soit morales, psychologiques ou même physiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait assez écho, et je crois que c'est une interview qui est encore disponible sur notre site internet, c'est orléans.radiocampus.org, donc faut pas hésiter à aller checker ça.
Certainement, c'est très intéressant. D'ailleurs, moi, les statistiques m'ont surprise. Là, je ne sais pas pour vous, mais j'avais ce préjugé que la jeunesse allait nous sauver, qu'ils étaient tellement plus ouverts sur le monde.
On fait partie de la jeunesse, tu parles d'eux. Et comme si des...
Mais alors, la jeunesse, c'est jusqu'à quel âge?
10 ans de plus, on a.
Ouais.
Exactement.
Bon, mais tu as été surprise par les chiffres. Moi, ce qui m'a surpris au niveau des chiffres, c'est le nombre de féminicides. Surtout au Québec, où justement, au niveau des mentalités, les gens se pensent vraiment à Montréal plus avancé qu'en Europe du Sud et surtout en France, où il y a vraiment un clash culturel assez important quand on arrive. Je ne sais pas si Paul, tu l'as vécu quand tu es venu à Montréal, ou Erwan, je ne sais pas si tu as eu l'occasion encore de venir.
Non, pas encore.
Mais aussi, souvent, les Français, Françaises prennent une petite claque de ce que tu as le droit de dire, pas le droit de dire, parce que dans le français de France, il y a beaucoup de sexisme qui est totalement normalisé. Ouais. Dans les insultes, dans les réflexions sexistes autant de la part des femmes que des hommes ou des personnes qui se considèrent ni l'un ni l'autre, mais on est imprégné de ça. Et Montréal est beaucoup plus avancé sur ça, c'est une terre qui tend plus vers le matriarcat et qui a fait un gros travail.
Pas exagéré non plus, mais...
Bah, c'est ce que j'ai appris à l'université en arrivant en tout cas, donc il y a des chercheurs qui prétendent cela. Mais au niveau des féminicides, c'est incroyable. Autant en France qu'au Québec, les chiffres ont augmenté depuis la pandémie. Et au niveau proportion de la population, même sur une terre où les droits sont plus avancés ici, par exemple, il y a beaucoup de femmes en politique au Québec, beaucoup de femmes à la direction d'entreprise et dans les conseils d'administration. Mais en dépit de ça, il y a encore énormément d'agressions sexuelles et de féminicides, presque autant qu'en France.
Et oui. La partie est loin d'être... Vas-y, vas-y, Paul.
Oui, c'est loin d'être réglé. Est-ce que ça peut aussi être mis sur, j'en sais rien, sur le dos du fait qu'au niveau droits sociaux, sans parler forcément des rapports de genre, de la parité et de l'égalité des sexes, les droits sociaux au Canada, au Québec, qui est un pays beaucoup plus libéral qu'en France, ça va faire que des populations vont être peut-être dans des situations encore plus précaires qu'en France, j'en sais rien. Ça peut aussi être une source de violence chez des personnes, j'en sais rien. C'est une source possible.
Ouais, bonne question, c'est à creuser.
En tout cas, je suis assez d'accord qu'à Montréal, quand j'y suis allé deux fois, enfin, je m'y sentais beaucoup mieux qu'en France au niveau bienveillance des gens, que ce soit sur les côtés non-genrés ou pas d'ailleurs, ou simplement de la politesse et des coutumes. Il y a plein d'exemples, quoi. Tu fais la queue pour monter dans le bus tranquillement sans te bousculer. Bon, voilà, un exemple parmi d'autres. Tu dis bonjour à la caisse en arrivant et on te répond bonjour, enfin salut. Rien que ces petits détails-là font que tu te sens bien, accueilli, etc. Chose qu'on a beaucoup moins en France, où tu es sur de la micro-agression permanente, surtout en milieu urbain, en tout cas à Paris. À Rennes, ça va beaucoup mieux. Mais oui, voilà, est-ce que les féminicides et sources de violence, par exemple, sont davantage issues de milieux ruraux que de milieux urbains favorisés? Est-ce qu'il y a des chiffres qui font une géolocalisation de ça ou pas? J'en sais rien.
Ce qu'on sait, c'est que les agressions sexuelles ne sont pas dépendantes des niveaux sociaux. Tu sais, on pourrait avoir des visions très caricaturales de c'est lié à la précarité, au manque d'éducation ou à des situations psychosociales compliquées. Et en fait, non. Ça peut très bien toucher des familles bourgeoises et très riches. Ce n'est pas relié à ça. C'est plus un rapport à la culture du pouvoir. Et donc, justement, même dans les, enfin, justement dans les sphères où il y a du pouvoir, il y a beaucoup d'agressions. Yeah. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de recherches avant de partir justement en tournage. C'est parce qu'on a encore plein d'aspects à démystifier pour pouvoir avoir des discussions riches dans les autos. Parce que nous-mêmes, on n'est pas hyper militante à la base et pas hyper renseignée non plus. Et c'était ça qui était intéressant, d'envoyer deux filles, pas des reines de la rhétorique, sur la route, se casser la gueule comme ça. On voit qu'est-ce qui en sort, quoi.
Ouais, puis c'est pour ça qu'on a des coachs féministes, qu'on s'entoure de chercheurs féministes pour nous entraîner à répondre, à réfléchir en profondeur à ces questions-là.
En tout cas, En voiture, Simone, c'est le projet que vous portez, Chloé et Andréane. Donc, vous pensiez partir en novembre, enfin pas en novembre, mais je veux dire à l'automne. Mais à l'automne, il y a la Niña qui risque d'être très tempétueuse et très, très compliquée. Je voulais savoir, quand est-ce que vous pensez que le documentaire que vous allez produire sera prêt? Est-ce qu'il sera prêt, par exemple, en mai, à tout hasard?
Très bonne question.
On ne sait pas encore quand. Ça, tout va dépendre de quand est-ce qu'on traverse
l'Atlantique.
D'ailleurs, on ne l'a pas dit tantôt, mais très rapidement, pourquoi on traverse l'Atlantique en bateau aussi ? C'est aussi pour faire le contre-pied de l'immigration qui s'est faite par bateau vers le Nouveau Monde, de la vieille Europe vers le Nouveau Monde pendant des siècles. Et donc, nous, on fait le trajet inverse en bateau pour reprendre le contre-pied de ce mouvement-là, vu que c'est un projet inspiré des contre-cultures. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais ça super, Erwan, que tu nous aies fait rencontrer Paul, parce que je trouve aussi que c'est un projet que tu développes, Paul, qui est pas mal dans le contre-pied aussi, soit avec l'environnement, on se voile la face, soit on est dans une vision vraiment dramatique, apocalyptique, et ce que j'adore dans ton approche, c'est que tu vas au-delà de ça, et puis tu vois le beau qu'il y aurait à la disparition de l'humain, et je trouvais ça chouette qu'on soit ensemble. Ces deux projets aux thématiques complètement différentes, mais quelque part ont un peu la même mentalité. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Claude Lanthrop, qui est un peu dans ce courant-là aussi. Tu sais, tu fais fi des conventions, puis tu cherches des brèches de liberté là où habituellement t'en trouverais pas.
Mais je suis ravi d'entendre que, grâce à nous, vous ayez pu vous rencontrer sur ce plateau virtuel. Enfin, je posais la question en mai parce que nous, on revient du coup pour la 3e édition d'Ondulation en mai, fin mai. Je vais pas tout de suite dire les dates parce qu'elles sont encore en cours de travail, mais fin mai, on va revenir, c'est sûr, pour une 3e édition de notre festival de la création radiophonique et numérique. Et cette fois, on va parler justement, le thème de cette année, ça va être les océans. C'est la première fois que je le dis à l'antenne, hein, donc nos éditeurs et auditrices sont en train de l'apprendre en même temps que vous. On va parler des océans, exclusivité, on va parler des océans et je voulais savoir, est-ce que ça vous dirait, alors si le projet est monté ou en cours de montage ou s'il y a quelque chose à présenter, est-ce que ça vous dirait de le projeter dans la salle culturelle de l'Université d'Orléans qui s'appelle Le Bouillon sur un grand écran avec du public?
Wow. Mais certainement, ça serait avec grand plaisir.
Quelle invitation.
Wow.
J'avais dit que je vous ai dit avant qu'on prenne l'antenne, je vais faire des invitations également pour toi, Paul. Alors, on voulait initialement te faire jouer sur les 30 ans de la radio en novembre, mais tu seras au Québec à ce moment-là, c'est ce que tu nous disais. Peut-être que tu pourras peut-être jouer sur la scène d'Ondulation, qui sait, également en mai. Tu seras où en mai ?
Eh ben, en mai, bonne question. Il faut que je demande à mon agent. Non, je rigole. En mai, je ne sais pas encore. C'est une période qui est souvent blindée de boulot pour moi, mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, je suis disponible.
Eh ben, écoute... Eh ben écoute, on se donne rendez-vous à Orléans fin mai pour le festival Ondulation, la projection du documentaire En voiture Simone et potentiellement probablement également une performance.
Une représentation
ouais. Exactement, la représentation de l'harmonie de notre absence. On invitera tous les autres projets lauréats hein, évidemment, puis l'OFQJ et puis on fera la grande fiesta ensemble quoi.
Ben oui, d'ailleurs, j'annonce 2-3 dates.
Vas-y,
au passage.
C'est le moment.
Le projet L'Harmonie Notre Absence va montrer des étapes de création au Québec. Les 30 octobre à Collectif La Lumière, enfin La Lumière Collective. Le 14 novembre à Espace Transmission à Montréal. Et le 16 novembre à Saint-Gabriel au Balmaski. Ça, c'est les dates prévues pour l'instant au Québec pour tester le projet. Et en France, je vais également faire une petite représentation à Nantes le 11 octobre et à Rennes en décembre, date à caler, mais dispo sur mon Instagram, paul.vivien. Il y aura toutes les infos pour les gens qui s'intéressent de voir les suites du projet.
Chloé, Andréane, des dates à annoncer, des comptes Instagram, des réseaux sociaux ou des sites internet à annoncer pour suivre votre travail et suivre, bah justement, j'imagine que ça sera documenté en live, cette grande traversée de 2 mois.
En live, ça ne sera pas documenté en live parce que c'est...
Il n'y a pas de 4G en mer.
Ouais. On n'est pas très réseaux sociaux pour être honnête, ouais. Mais il faudrait s'y mettre,
effectivement, mais c'est clair qu'on vous tient au courant des avancées du projet.
Et on va passer vous voir Orléans.
Oui,
mais
c'est
oui.
Vrai.
Dans l'itinéraire, c'est prévu qu'on passe chez vos copains, vos collègues à Sherbrooke,
ouais.
Au départ. En plus, il y a une superbe publicité le long de l'autoroute 10 qui va de Montréal à Sherbrooke avec un bar de danseuses nues.
Mais vous y allez quand à Sherbrooke ? Est-ce qu'on se croisera ? Parce que nous, on y va en novembre. On est à Sherbrooke. L'équipe de Radio Campus Orléans est à Sherbrooke début novembre, les 2 premières semaines.
Ok, mais dans ce cas-là, on va se voir le 14 novembre
yeah
à Montréal à la performance de Paul Vivien.
Voilà, et le voilà. Rendez-vous, il est pris.
C'est une date. Fait qu'on se voit là-bas.
Avec grand plaisir.
Puis Paul, il va falloir que tu viennes nous voir aussi à Montréal. 30 octobre, Lumière Collective.
Ouais. Vous, vous y êtes quand à Montréal? Moi, j'y suis du 15 octobre au 30 novembre. Et puis sinon, je me balade faire des dates. Mais je crois qu'on est à la fin de l'émission.
Ouais, on est à la fin de l'émission. Vous l'entendez en arrière-plan, tu as l'oreille, c'est le générique. Dans